Merci Christine, merci de m'avoir invitée. Donc effectivement, l'idée c'est de faire un parallèle. Alors en écoutant Christine tout à l'heure, je me suis dit que le parallèle serait facile à faire entre ce qu'on peut savoir du développement, en particulier du développement du chant des oiseaux et de ce qui a pu vous être montré sur nos particularités humaines. Je pense, oui.
C'est enregistré?
Oui, j'ai signé un papier, alors
Ah,
je pense que oui. Donc en fait, bon, il va y avoir une petite partie introductive et ensuite je vais prendre notre modèle animal favori dans le laboratoire, qui est les tourneaux sans sonnet, pour illustrer un petit peu les approches plus précises autour de ces questions. Et dans ce cadre, je voulais souligner que ce travail était réalisé avec mon équipe, donc Isabelle Georges, Hugo Cousias et Laurence Henry, qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui ont eu un rôle majeur dans ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, le chant des oiseaux, vous en avez tous entendu à un moment ou à un autre, que vous soyez en ville ou à la campagne, on les entend. On les entend surtout de façon saisonnière. Vous savez sans doute qu'il est assez facile pour une oreille un peu experte de reconnaître les espèces de par leur chant. Si on prend la mésange qui chante plutôt de février à juillet, voilà, on est sur un chant très simple. Le rouge-gorge que vous avez dû tous entendre qui chantait l'essentiel de l'année. Le pinson qui lui aussi est très saisonnier. Et le merle très présent dans nos villes que vous entendez aussi davantage au printemps. Tout ça, ce sont des sons, j'imagine, qui sont familiers pour vous. Et le fait que ces sons soient essentiellement saisonniers a amené rapidement à une conclusion générale qui était que le chant avait des fonctions bien particulières liées à la reproduction, qui étaient entre autres défense du territoire contre les mâles voisins et puis attraction des femelles. Alors il faut savoir que ce ne sont pas les seules fonctions, bien évidemment. Ça sert aussi à la reconnaissance spécifique et individuelle, c'est-à-dire qu'au-delà de ces sons globaux qu'on peut entendre qui caractérisent l'espèce, il y a des détails qui varient d'un individu à l'autre et qui font qu'un congénère va facilement savoir si c'est son voisin, un étranger, ou quelqu'un de son groupe social. Il faut savoir que tous les oiseaux ne sont pas territoriaux, il y en a qui vivent en groupes sociaux tout au long de l'année. Et dans ce contexte-là, on se rapproche un peu des conditions dans lesquelles nous aussi on utilise le langage, c'est-à-dire que ce chant va aussi servir à communiquer une identité sociale. Alors, la structure elle-même, bon, je vois que vous êtes familier avec les spectrogrammes, je me posais la question avant de venir, hein, donc effectivement, fréquence temps, donc plus c'est haut, plus c'est aigu, et plus c'est long, plus la trace est longue, plus le chant ou la note est longue. Et vous voyez que si on prend deux espèces assez classiques dans les études du chant, qui sont le bruant à couronne blanche américain ou le diamant mandarin, la structure des sons est extrêmement différente. Donc, quand on dit le chant des oiseaux, on devrait dire les chants des oiseaux, parce que c'est vraiment très très différent. Et on verra que, en fait, il y a aussi beaucoup de variations dans les processus, même s'il y a des généralités. Alors, la production du son ou du chant chez les oiseaux est très différente de la production, évidemment, du langage. Et ils ont un organe qui est unique dans le règne animal qui s'appelle le syrinx, qui en fait résulte d'une modification des derniers anneaux de la trachée et des premiers anneaux bronchiques. Donc en fait, on est à la jonction entre la trachée et les deux bronches. Et donc, on voit l'intérieur du conduit et il y a des membranes dites tympaniformes qui vibrent et ce sont elles qui vont être responsables de la production des fréquences de son. Donc le syrinx, en fait, toute la zone autour de cette partie de production, est fortement musclé. Il y a six paires de muscles responsables de cette production, de ces modifications de vibration, et elles sont innervées par le nerf hypoglosse. Je reviendrai sur cette question après. Donc, en fait, il y a un système moteur qui commande à la fois la musculature et à la fois vocale et respiratoire. Et en fait, la particularité, donc le son est produit le long de ces branches, et on s'aperçoit qu'en fait, les oiseaux peuvent parfaitement clore un côté et produire le son avec l'autre. Et inversement, ça peut être droite, ça peut être gauche. Alors, chez un certain nombre d'espèces, c'est une production majoritairement par la voie gauche, mais chez d'autres espèces, c'est majoritairement droite. Et le plus souvent, le chant est un produit d'une coordination entre les deux côtés. Soit parce que les deux vont émettre un son concordant en même temps, soit parce qu'il va y avoir des sons surimposés. Et donc, les chants, les oiseaux au chant le plus complexe, souvent, ont des systèmes où il y a deux voix indépendantes qui se produisent en même temps. Chez les tourneaux, pour l'anecdote, on peut avoir des animaux. Par exemple, moi, j'ai eu un oiseau une fois qui imitait la chèvre avec une branche voilà, et qui imitait des éléments de l'environnement avec l'autre. Donc, on entendait deux sons très différents en même temps. Donc, ça, c'est quand même une grande particularité. Donc là, récemment, il y a une étude, pour ceux que ça intéresse, qui est parue, où on peut reconstituer en 3D le fonctionnement du syrinx avec toute la musculature inhérente qui est effectivement très impressionnante. Et puis, donc, dans cette production, il y a la production de la fréquence fondamentale de par cette vibration, et en fait, on peut jouer, on a vu l'importance des harmoniques à l'instant, en fait, tout le système vocal, ou tout le système de production vocale, va pouvoir modifier aussi la résonance. Et en particulier, un élément que je trouve intéressant, c'est le fait que l'oiseau peut moduler la résonance de par l'ouverture de son bec et modifier aussi les fréquences. Et on voit là, en fait, une vidéo, donc une reconstitution de vidéo de l'ouverture du bec de l'oiseau au fur et à mesure qu'il chante avec les fréquences associées. Plus le bec est ouvert, plus la fréquence est mise et haute. Et pour l'anecdote, et à titre d'exemple peut-être plus parlant, chez un oiseau non chanteur, qui est la bernache nonnette, on a pu montrer que chaque individu, pour un cri donné, qui est un cri de contact à distance, avait un degré d'ouverture du bec qui lui était caractéristique et lui était associé à un son avec un timbre, donc une fréquence maximale au niveau des harmoniques, qui lui était aussi caractéristique. Donc là, on a 5 animaux avec, vous voyez, et le même oiseau, on peut l'enregistrer plein de fois, il aura toujours la même ouverture de bec, avec les sons associés qui sont caractéristiques. Je vais vous faire entendre là, juste pour que vous vous rendiez compte de ce que ça représente, 3 séries, ça c'est un individu A, un individu B et un individu C, tous les 3 caractérisés par des ouvertures de bec différentes et donc des fréquences dominantes différentes. Je pense que hein, même pour notre oreille humaine, la différence est très claire. Voilà. Alors revenons aux oiseaux chanteurs. Il y a entre autres une caractéristique très forte qui est qu'il y a une coordination absolument nécessaire entre la production des sons et la respiration. On considère que la pression, donc les sacs aériens qui sont autour de ce système, produisent le son, les notes du chant sont produites pendant l'expiration. Et on se rend compte qu'on a un ratio de 10 à 16 fois plus d'expiration pendant que l'oiseau chante que quand il respire normalement. Il est obligé aussi, parce que quand les chants sont très longs, en fait, la respiration n'arrive plus à se coordonner, il fait des mini-respirations pendant les notes, et en fait, il peut y en avoir jusqu'à 30 par seconde, donc c'est vraiment énorme. Et là, on voit, par exemple, sur un chant de mandarin, comment se coordonnent les expirations avec la production des notes au fur et à mesure. Donc, vous voyez que c'est un système qui est très complexe, qui demande une coordination très fine et qui demande qu'à tout moment, l'oiseau soit en commande, quelque part, à la fois des deux côtés, à la fois de la respiration, et que soit vraiment commandée de façon coordonnée toute cette musculature, à la fois respiratoire et de production vocale. Alors, il faut rendre hommage à quelqu'un qui s'appelle Nottebohm et qui a fait un énorme travail, qui est un pionnier sur la neuroéthologie du chant d'oiseaux. Et en particulier, il a fait un travail très minutieux d'identification des noyaux cérébraux responsables à la fois de la production et de la perception. Et en travaillant par lésion, par coloration, il a pu mettre en évidence, dans ces années-là, un noyau moteur qu'on appelle le hyperstriatum ventralis caudalé, qu'on appelle plus souvent high vocal center de nos jours, qui lui-même se projette sur un autre noyau qui s'appelle le robustus archistriatalis, donc RA, qui lui-même se projette vers le noyau du nerf hypoglosse et qui est justement celui qui va innerver à la fois le syrinx et le système respiratoire. Donc là, on est sur un système clair de contrôle moteur de la production. Ensuite, il a pu montrer aussi qu'il y avait d'autres noyaux qui ont été identifiés un peu plus tard, donc la région qui s'appelle MAN ou l'aire X, qui sont essentiels non pas à la production chez l'adulte, mais à l'acquisition du chant. C'est-à-dire que s'il y a une perturbation dans ces zones, le jeune oiseau ne va pas être capable d'apprendre son chant. On reviendra sur cette notion après. Et puis, il a mis aussi en évidence une zone perceptuelle qui, du niveau périphérique, remonte vers l'ovoïdalis, puis l'aire auditive primaire, qu'on appelle le complexe L ou le champ L, une aire auditive secondaire, qui est le NCM. Et puis, on a deux petites zones, l'UVA et le NIF, qui sont plus ou moins multisensorielles et interhémisphériques. Et on peut voir qu'il y a des projections entre eux, ou des connexions plutôt, entre les aires sensorielles et les aires motrices. Et on a aussi des connexions qui relient tout cet ensemble au moment de l'apprentissage, c'est-à-dire qu'il y a un lien direct entre perception, production, acquisition. Donc on est bien sur cette question de boucle audio-phonatoire. Et effectivement, au moment du développement, c'est crucial. Tous les oiseaux chanteurs ont besoin d'apprendre leur chant. Un merle, comme on l'a entendu tout à l'heure, comme vous l'entendez dans vos jardins, ne va pas être capable de produire ce chant s'il n'a pas eu un modèle adulte à imiter. Là, vous avez deux exemples, le bruant des marais et le bruant chanteur, où on voit la structure du chant d'adulte normal pour l'espèce. Et si l'oiseau est élevé, on le prélève dans le nid, on l'élève à la main, sorti d'un contexte avec des congénères, donc il est tout seul, et voilà ce qu'il va produire, quelque chose de quand même très différent de la structure d'adulte, même si quelque part, il y a des similarités. Même chose pour le bruant chanteur. Ça a été vérifié sur toutes les espèces d'oiseaux qu'on a pu élever en isolation. Et puis, c'est encore pire si on les assourdit. C'est-à-dire que si vous voyez maintenant le sonogramme d'un oiseau isolé et assourdi de chacune des espèces, vous voyez qu'on est encore plus loin de la structure d'adulte normale. Ce qui veut dire que même en l'absence de modèle adulte, le fait de pouvoir s'entendre fait que l'oiseau va avoir une structure un peu plus normale que s'il n'a même pas accès perceptuellement à ses propres vocalisations. Mais bon, en général, l'oiseau chanteur, il apprend d'un modèle et d'un modèle social qui va être, suivant les cas, par exemple, père nourricier, c'est le cas du bouvreuil, un bouvreuil élevé par un canari va chanter un chant de canari. Voilà. Les mésanges ont plutôt tendance à apprendre plus tard dans la vie, quand elles vont s'installer dans un territoire et elles vont apprendre de leurs voisins. De cette notion aussi que toutes les espèces n'apprennent pas au même moment. Et puis les ménates, par exemple, qui sont l'équivalent indien de nos étourneaux, vont apprendre de leurs partenaires sociaux. Donc ils forment des groupes et dans ces groupes, ils vont apprendre des partenaires. Voilà. Alors l'apprentissage se fait à des moments clés du développement en général, ce qu'on a appelé, par analogie avec ce qu'on a montré chez l'homme, les périodes sensibles. Chez le diamant mandarin, par exemple, en situation expérimentale, on a pu montrer que l'acquisition sensorielle se fait essentiellement autour de 25 à 55 jours. Chez cette espèce, il commence par apprendre les modèles sensoriels et puis, en même temps qu'il continue d'apprendre, il va commencer à produire du chant. Alors, il faut savoir que tous les oiseaux chanteurs passent par des phases de développement, l'une qui s'appelle le préchant, qui est une phase très, très rudimentaire où l'oiseau produit des tas de sons mais qui n'ont pas vraiment de sens clair. Ensuite, une phase plastique où là, on commence à voir émerger des structures du chant d'adulte mais mises dans le désordre et mises au milieu de plein d'autres choses. Mais c'est quand même ce qu'on a tendance à mettre en parallèle avec le babillage humain. Et puis ensuite, apparaissent le chant plastique s'élabore de plus en plus jusqu'à arriver au chant d'adulte dont on dit qu'il est cristallisé, c'est-à-dire qu'il est, pour certaines espèces, fixé à vie. Alors, c'est le cas pour le diamant mandarin. Chez d'autres espèces, comme le bruant à couronne blanche, qui est une espèce classique aussi de l'apprentissage du chant, la période d'apprentissage sensoriel et la période de production vocale sont totalement dissociées, c'est-à-dire que un jeune bruant à couronne blanche va apprendre son chant entre 10 et 50 jours de vie du modèle entendu, mais il va l'apprendre de façon purement sensorielle et en fait, il ne va le produire qu'en gros un an plus tard. Donc là, il y a une dissociation claire entre mémoire auditive et production, ce qui veut dire aussi que la boucle audiophonatoire est d'autant plus importante que là, il n'a plus que ses propres productions pour s'ajuster avec la mémoire qu'il a de ce modèle adulte. Donc, on a un peu tous les cas de figure, dont d'autres espèces qu'en anglais on appelle open-ended learners, c'est-à-dire les oiseaux qui peuvent apprendre tout au long de leur vie. Mais ceci dit, même cet apprentissage tout au long de la vie ne se fait pas sans structuration temporelle. Par exemple, chez le canari, on s'aperçoit que le chant est fixe en période de reproduction et qu'entre les périodes de reproduction, c'est là qu'il va y avoir des modifications, acquisition de nouvelles syllabes, perte d'anciennes syllabes. Voilà. Donc là, on a des espèces comme le canari, les tourneaux et autres, qui sont des oiseaux ouverts à l'âge adulte, encore à l'apprentissage. Alors, c'est vrai que le chant des oiseaux a été un modèle neuroéthologique de choix pour plein de raisons. Donc, il y a eu tout ce travail pionnier de Nottebohm qui a vraiment permis de montrer un système de chant, donc un système qui relie la production et la perception. Et puis, c'est aussi le même Nottebohm qui a découvert pour la première fois la neurogenèse chez l'adulte en s'appuyant justement sur ces modèles de modification du chant au cours du temps, et en particulier le canari, par exemple, qui change de chant tous les ans hors saison de reproduction. C'est aussi un moment où il y a des pertes neuronales, enfin des mormes neuronales, et des moments de renouvellement, d'apparition de nouveaux neurones. Donc pour la petite histoire, je vous ai montré un petit peu la démarche qui a consisté à tuer certains neurones. Alors on s'est aperçu qu'en tuant certains neurones, on stimulait la neurogenèse. Hein. Donc là, les recherches les plus récentes, on tue des neurones, en particulier en utilisant un laser, et on injecte avec un produit qui permet de suivre les nouvelles cellules, et on s'aperçoit qu'après un certain temps, effectivement, là où il y avait eu mort neuronale, il y a aussi remplacement par de nouveaux neurones. Voilà. Alors, d'autres développements méthodologiques récents, c'est aussi d'utiliser l'expression des gènes comme marqueur d'activité. C'est le cas de gènes comme zinc ou CFOS. Là, c'est un exemple. Alors, ce qui est intéressant avec cette technique, c'est qu'en fait, elle permet non pas d'avoir nécessairement l'activité immédiate, mais éventuellement la mémoire, puisqu'en fait, c'est un marqueur d'activité passée qui peut aller de quelques minutes à quelques heures. Hein, donc, ça va être très différent de ce qu'on voit avec les approches électrophysiologiques que je vais développer un peu plus après. Et puis, vous savez aussi qu'il y a eu beaucoup aussi de publicité autour de ces fameux gènes FOXP2, dont on a dit c'est le gène du langage, dont l'équivalent a été retrouvé dans le cerveau d'oiseau et qui existe aussi. Et s'il y a une perturbation, il y a aussi une perturbation de la production vocale chez l'oiseau. Voilà. L'imagerie cérébrale est quelque chose qui est assez difficile sur l'oiseau chanteur parce que c'est un petit animal, donc on est dans le meilleur des cas proche de la souris. Et l'autre inconvénient, c'est qu'en général, il faut les anesthésier. Et vous verrez qu'en fait, le fait de les anesthésier peut aussi donner des indications qui ne sont pas tout à fait le reflet de ce qui se vit au quotidien pour l'oiseau. Mais n'empêche qu'on peut, par exemple, dans ce contexte, utiliser l'IRM pour comparer les zones activées quand un oiseau entend un chant, qu'il soit en période de reproduction ou en période de non-reproduction. Donc on a une petite idée des modifications de la localisation des réponses neuronales suivant l'état physiologique de l'animal. Voilà. Et enfin, depuis déjà les années 70 et même avant, le chant d'oiseau est considéré comme le meilleur modèle animal de développement du langage humain pour plusieurs raisons, qui sont qu'il y a des parallèles clairs. Il y a besoin d'être exposé aux signaux spécifiques pour apprendre. Un oiseau isolé comme un enfant isolé ne va pas produire une communication normale. Existence d'une période sensible, nécessité de s'exercer à la production, nécessité d'entendre ses propres productions, le rôle du feedback auditif, et un côté assez rigide une fois que c'est acquis. Alors ça, c'est la vision des années 70. Voilà. Mais il y a eu quand même un certain nombre d'auteurs à se dire, voilà, on est dans un contexte expérimental rigide, et en général, les expériences étaient faites de façon extrêmement rigoureuse. Et pour qu'elles soient rigoureuses, au lieu de mettre un oiseau vivant comme modèle avec les jeunes oiseaux, on utilisait des haut-parleurs. Donc, par exemple, la découverte des périodes sensibles chez le bruant à couronne blanche s'est faite en diffusant par haut-parleur à des jeunes oiseaux pendant toute une période des chants différents. Et on s'est aperçu que, in fine, quand on comparait à leur production plus tard, les seuls qui avaient été mis en mémoire étaient ceux entendus entre l'âge de 10 jours et 50 jours. Mais il y a eu un auteur en particulier qui s'appelle Louis Baptista qui s'est dit « Mais dans la nature, ce n'est pas des haut-parleurs, j'ai l'impression de voir des modifications sur le terrain. Est-ce que ce n'est pas lié à ce phénomène d'interaction sociale ?» Parce que finalement, normalement, un oiseau, il apprend en interaction. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris un tuteur vivant à qui il a donné la possibilité d'interagir avec les jeunes, ce tuteur étant ou non de la même espèce. Et ce dont on s'aperçoit, c'est dans ce contexte-là d'interaction directe, on a une capacité, une capacité d'apprendre au-delà de la période sensible. Bon, ça va vous rappeler quelque chose que vous avez entendu tout à l'heure, hein. Mais aussi une capacité d'apprendre des champs qu'on n'apprendrait jamais normalement. C'est-à-dire que là, vous voyez la structure du modèle et vous voyez la, enfin, de l'adulte de la même espèce. Là, c'est le modèle de l'autre espèce et vous voyez que le jeune, en fait, il a copié le modèle de l'espèce avec laquelle il était en interaction. Ce qui veut dire quand même que ce champ perceptuel modifié par l'expérience sociale a influé fondamentalement sur la production d'oiseaux. Donc, de fait, l'interaction sociale en tant que telle peut amener une plasticité du système qu'on n'aurait jamais soupçonné si on était resté sur ce contexte très expérimental et très rigide. Donc, en fait, de ces premiers éléments, qu'est-ce qu'on peut déduire ? C'est que, d'abord, l'aspect perception précède ou, en tout cas, conditionne fortement la production. Le deuxième, c'est que pour comprendre ce complexe, on a besoin de toujours se référer au contexte fonctionnel dans lequel la communication arrive. Et que peut-être on va arriver à comprendre certains mécanismes neurobiologiques dans un contexte très restrictif, mais on a besoin de s'ouvrir à ce contexte fonctionnel. Alors, je vais passer maintenant à des exemples concrets sur l'espèce sur laquelle on travaille pour illustrer chacun de ces aspects. Alors, qu'a à faire un oiseau dans sa vie quotidienne ? Un des premiers aspects, ou en tout cas à quoi peut lui servir le chant, c'est à reconnaître son espèce, voire sa population. Alors, l'étourneau, il a un gros avantage, c'est qu'il vit un peu partout dans le monde. Ça, c'est l'aire de répartition. Il a été introduit, là, avec regret maintenant, mais il a été introduit dans des pays comme l'Australie, l'Afrique du Sud et autres où il n'existait pas originellement. Et en fait, on peut travailler, essayer de trouver un petit peu ce qui caractérise l'espèce dans toutes ces populations. Donc, on a des enregistrements, nous, de toutes ces populations. Et puis, ce qui apparaît absolument partout, c'est que pour les tourneaux, le chant est un acte social. C'est-à-dire qu'il est produit dans la colonie. Donc la colonie, c'est quelques nids de voisins. Les mâles vont visiter ce nid tous les matins. Ils interagissent avec leurs voisins. Donc c'est 3 à 15 nids à peu près. Et puis dans la journée, les étourneaux vont se rassembler pour aller manger en groupe de 10 à 500 oiseaux. Et le soir, vont aller dormir dans d'immenses dortoirs dont certains peuvent faire 2 à 3 millions d'oiseaux. Et dans toutes ces situations, il y a du chant et des interactions vocales. Juste pour rappel, pour ceux qui n'auraient jamais entendu un dortoir. Voilà, donc je suppose que comme moi, vous avez l'impression qu'on n'entend que du bruit. Donc on va revenir aussi sur comment, on a parlé tout à l'heure de l'effet vacarme, on est vraiment typiquement dedans. Et donc, de la comparaison de tous ces oiseaux dans toutes ces populations, on peut tirer des grandes constantes qui sont qu'il y a des thèmes qu'on va dire universels, qu'on retrouve dans toutes les populations, qui sont ceux-là, qu'on a appelés la classe 1. Alors, il y en a qui peuvent ne pas exister dans certaines populations pour des raisons sociales sur lesquelles je ne viendrai pas aujourd'hui, mais globalement, ce sont des sons qui servent à l'interaction à distance et qu'on retrouve sous les mêmes formes un peu partout. Après, au sein de chaque colonie, on a des thèmes sifflés aussi, vous voyez, c'est des sons très purs, qui caractérisent chaque individu dans la colonie. Ah, je me suis trompée encore une fois. Comme cela. Donc là, par exemple, vous avez 3 individus différents. Donc vous arrivez dans la colonie, vous entendez ça et vous savez qui c'est. Et puis, il y a ce qu'on a appelé le gazouillis, donc qu'on a appelé aussi classe 3, qui est composé, donc là vous avez une séquence complète, de motifs, d'ensembles de notes répétées, suivis de petits cliquetis comme ça, et qui finissent par des trilles aigus. Et en fait, toute la partie antérieure est caractéristique de l'individu. C'est-à-dire que sur les 400 individus qu'on a pu enregistrer, voire plus, il n'y a pas 2 individus qui ont le même gazouillis. C'est quand même assez... Enfin, je trouve ça assez fabuleux. Donc, voilà, je vous fais entendre quelques motifs. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans ce gazouillis, c'est que l'oiseau peut incorporer... En fait, quand vous écoutez un gazouillis des tourneaux, vous savez où il vit. C'est-à-dire que s'il vit en ville, vous avez un bruit de téléphone portable, de marteau-piqueur, etc. S'il vit dans les marais, vous aurez des grenouilles, et s'il vit à la ferme, vous entendrez les poules, les chats, etc. Donc c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Et chaque individu incorpore à sa façon. Vous pouvez avoir deux individus qui imitent la poule, mais ils ne vont pas imiter nécessairement la même partie du cri de la poule, ou pas les mêmes cris de poule, ou ils ne vont pas les combiner de la même façon dans l'ensemble de la séquence. Voilà. Et en fait, à travers ces champs, il y a deux types d'informations qui apparaissent majoritairement. C'est l'information spécifique. Ça, par exemple, donc les thèmes de classe 1, je vous ai dit, c'est universel et on les trouve partout. Et puis, il y a ces tris aigus sur lesquels je reviendrai, qui sont caractéristiques des fins de séquence, qui sont très assez désagréables à l'oreille, il faut bien le dire, mais qui existent partout. Voilà. Et le reste, il y a une bonne partie du reste qui est de l'information individuelle. Donc, si je vais juste expliquer brièvement un petit peu ces trois classes, parce qu'elles jouent vraiment un rôle dans la détection. Le gazouillis, typiquement, c'est un chant qui est très long, il peut durer jusqu'à une minute. Et là, je vous fais entendre une séquence entière. Voilà, comme je vous disais, ce n'est pas très agréable à l'oreille. Donc, les cliquetis qu'on entend à la fin et les tris aigus sont caractéristiques de tous les étourneaux, mais tout le début est caractéristique d'un individu. Voilà. Et en fait, il est très fréquent, ce chant, au moment de la reproduction, et en particulier dans le contexte mâle-femelle. Les sifflements de classe 2, donc on a aussi appelé sifflements individuels, qui sont caractéristiques d'un individu dans son environnement, semblent être là pour attirer l'attention des congénères. Souvent, il y a une approche, que ce soit de la femelle ou d'un autre congénère. Et de la même façon que ceux de classe 1, c'est simple, court et puissant. Donc, c'est communication plutôt à longue distance. Et ça peut être très varié, avec des imitations, par exemple, de certaines espèces locales. Et puis, les fameux thèmes universels, donc les thèmes de classe 1, qui sont vraiment très simples, qui ont une transmission à très longue distance, qui sont émis beaucoup d'un nid à l'autre entre les mâles, mais aussi dans les contextes d'interaction, dans les rassemblements. Je vous l'ai déjà fait entendre, donc je ne vais pas le refaire, et dont on va voir qu'ils jouent un rôle important d'un point de vue social aussi. Par exemple, une toute première étude qu'on avait faite, c'était de regarder tous les chants de tous les oiseaux sur le campus universitaire de Rennes. Voilà. Et donc ça, c'est un individu, un autre individu, etc. Et on a comparé un site à la campagne, dit Petit Beauvais, où il y avait trois individus. Et on a regardé pour chacun de ces thèmes universels quelle était leur structure. Et on s'aperçoit que, en fait, voilà, si on prend tous les animaux du campus de Rennes, ils ont à peu près la même forme. Par contre, elle est différente de celle qu'on a dans le site à la campagne. Là, le thème simple, par exemple, a varié. C'était une forme courte là, une forme longue ici. Et puis le thème à inflexion, ce qu'on appelait thème à inflexion, voilà, a à peu près la même forme pour tout le monde ici, mais est très différent dans l'autre site. Maintenant, au-delà de ça, on aurait pu dire que tous les oiseaux du campus, finalement, ils ont la même forme, ce qu'on appelle dialecte, hein, c'est-à-dire des variations locales. Entre le campus et le dit lieu Petit Beauvais, il y a une différence de dialecte. Mais en fait, si on regarde de plus près et qu'on prend un autre thème, qui est le thème rythmique, on s'aperçoit sur le même campus qu'à 500 mètres de distance, les petits groupes coloniaux ne chantent pas la même forme. Donc vous voyez qu'il y a des niveaux de variation, et ce qu'on appelle des variations micro-géographiques, c'est-à-dire qu'une entité sociale a sa propre forme de dialecte. Maintenant, si on revient à ces thèmes-là, et qu'on regarde cette fois-ci sur une échelle... Ah oui, alors si, peut-être je vais quand même parler de ça. Ce qui est intéressant, c'est que ces entités coloniales ont tendance à se retrouver dans les grands dortoirs tels qu'on les a entendus tout à l'heure. Et ce qui, pour nous, n'avait pas de sens d'un point de vue acoustique, a un sens pour eux, parce que c'est un lieu d'interaction majeur. Et on s'est aperçu que les oiseaux présentant la même forme dialectale du thème rythmique avaient tendance à rester ensemble dans le dortoir, hein, en mettant des micros dans différentes zones du dortoir. Donc là, c'est deux individus voisins, et là, c'est deux autres individus voisins. Donc prêtez l'oreille, les différences sont subtiles. Est-ce que vous avez entendu les différences, hein, quand même? Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, au milieu de ces milliers d'oiseaux présents, les animaux d'une même colonie ont utilisé cet outil pour se retrouver. Donc pour eux, les sons sont pertinents. Et ça leur permet le matin de repartir par groupes coloniaux de nouveau dans leur colonie. Et puis, si on regarde à plus grande échelle, on s'aperçoit qu'il y a aussi des variations dialectales des autres thèmes, ce qu'on soupçonnait à travers la première étude, et que, par exemple, pour, si on prend ce thème-là, ici, on a des zones dialectales, des frontières dialectales. À l'intérieur de ces frontières, tous les oiseaux chantent la même forme, qui diffère de la forme chantée par les oiseaux qui sont ici. Donc, pour ce thème-là, on a des zones dialectales de l'ordre de 150 km², avec des différences qui, même pour notre oreille, s'entendent bien. Là, ça, c'est la forme qui est ici. Ah, bah non, il ne veut pas me le mettre. Et si je vous passe maintenant celle qui est ici. Là aussi, vous avez entendu, je pense. Hein. Voilà. Donc, par contre, ce qui nous intéressait, ce dont on s'aperçoit, c'est que dans les regroupements, par exemple, les oiseaux se répondent en utilisant les thèmes, mais ils gardent leur propre variante du dialecte en question. Et donc, on a fait des expériences de repasse pour voir comment les animaux percevaient les différences. Donc là, on passe. Alors là, c'est un thème à inflexion qui se caractérise par un moment où il y a une inflexion particulière qu'on retrouve à chaque fois. Et là, on a passé à un oiseau, donc avec haut-parleur, dans la nature, soit sa propre version du thème inflexion, soit celle, une d'ailleurs, qu'il ne connaissait pas. On s'aperçoit qu'effectivement, il répond davantage pour le dialecte familier, il répond plus vite pour le dialecte familier, et ce qui est intéressant, c'est que quand c'est un dialecte étranger, il a tendance à partir. Même pas ça. Voilà. Donc en fait, on avait une preuve claire que, si ça ne nous étonne pas beaucoup, puisqu'on les entend nous-mêmes, les oiseaux discriminent ces variations dialectales. D'un autre côté, et là, c'est peut-être plus intéressant, on constate dans la nature qu'ils ont tendance à se répondre quand ils interagissent avec le même thème qu'ils ont entendu, ce qu'on appelle le song matching. Là, par exemple, vous avez une séquence de chants d'un individu. Voilà. Donc vous voyez, cet individu a émis un premier type, un deuxième type, il a émis celui-là, et un autre lui répond immédiatement, vous voyez que c'est avec exactement le même type de chant. On a utilisé cette tendance pour tester si, au-delà des variations dialectales, les animaux reconnaissaient quand même le thème. Donc ce qu'on a fait, c'est toujours nos expériences, on diffuse le son par haut-parleur, on voit comment l'animal répond, et on s'est aperçu qu'en fait, que le son soit un dialecte familier ou non familier, ils vont toujours avoir tendance à répondre quand même par le thème considéré. C'est-à-dire là, c'est un thème à inflexion, ils vont répondre par un thème à inflexion. Simplement, ils vont utiliser leur propre dialecte pour répondre. Ce qui est sans doute ce qui leur permet, dans des endroits comme par exemple les dortoirs, d'être capables de s'identifier. Ben, toi, tu es de mon dialecte et pas toi. Et voilà. Donc, en fait, c'est aussi montrer qu'ils sont capables de catégoriser et généraliser sur la base d'éléments qui sont quand même subtils dans le son. Parce que si vous comparez ces deux formes, vous voyez bien qu'il y a quand même une toute petite partie qui est commune. Donc, c'est quand même intriguant. Et donc, on s'est posé la question des mécanismes perceptuels qui allaient avec. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a cette boucle auditive où on a une aire auditive primaire, une aire auditive secondaire, qui toutes deux ont pu être mises en évidence comme jouant un rôle dans la perception du chant. Et on a utilisé deux types de techniques, des enregistrements systématiques. Donc voilà, on met les électrodes dans un plan et puis on enregistre à intervalles réguliers en profondeur et en espacement, ce qui nous permet d'avoir des cartes d'activité, localiser les zones où les neurones sont activés. Et d'un autre côté, on a aussi travaillé au niveau de neurones isolés, un petit peu ce que vous avez vu pour le marmouset tout à l'heure. Et là, on a, par-dessus ça, appliqué une méthode qu'on appelle la corrélation régressive. Alors, le principe, ici, vous avez un même neurone. Tout ça, ce sont des lignes de réponse d'un même neurone à différents stimuli. Chaque ligne correspond à un signal auditif donné. Alors, les tourneaux, il est dans une petite jaquette, il est éveillé. Et on lui diffuse des sons et on enregistre en même temps à quoi les neurones répondent. Et on s'aperçoit que ce neurone-là, par exemple, sur chacun des champs, quelque part, il a répondu à un petit élément. Il n'a jamais répondu à un champ entier. Il y a des zones où il est activé, il y a des zones où il est inhibé. Et on s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut faire émerger ce à quoi le neurone est particulièrement sensible. Donc en fait, notre ingénieur de l'époque, Jean-Pierre Richard, a mis au point une méthode d'analyse qui est la corrélation régressive, ou en tout cas il a utilisé une méthode existante qui est la corrélation régressive, pour faire apparaître sous forme de sonogramme ce envers quoi le neurone répondait, soit sous forme d'activation, soit sous forme d'inhibition. Et on arrive à des profils de neurones de ce type-là. Certains sont des généralistes, mais d'autres sont extrêmement spécialisés envers des éléments clés du champ. Là, on est dans l'aire auditive primaire. Et par exemple, celui-là n'est pas sensible, vous voyez qu'il y a un flou ici, n'est pas sensible à ce qui précède, mais il est sensible à la zone d'inflexion. Typiquement, c'est le type de neurone qui permet l'identification du thème à inflexion. Il est par contre inhibé pour tout ce qui est plutôt descendant après. Donc en fait, voilà, il y a un élément précis du champ qui déclenche. Il y en a d'autres qui sont sensibles à des fréquences données. Donc chaque fois que cette fréquence apparaît dans un sifflement, il va réagir, ou un ton pur. Et dans ce contexte, pour revenir à l'exposé précédent, on a aussi trouvé des neurones qui étaient spécifiquement sensibles à la présence de deux ou trois fréquences simultanées. Hein, donc on pourrait dire qu'il y a aussi des détecteurs d'harmoniques. Et puis il y en a d'autres, c'est la pente. Voilà, donc ça c'est juste trois exemples. Mais il y a une vraie spécialisation envers des éléments qui sont cruciaux pour la reconnaissance et aussi pour la production, puisqu'en fait, il y a réponse derrière. Et puis, on retrouve chez les tourneaux, comme on l'a vu tout à l'heure, des phénomènes de structuration spatiale dans la zone auditive primaire. Et par exemple, là, vous avez le décours temporel d'un sifflement donné. Et vous voyez qu'il y a une zone de réponse, une zone d'activation qui progresse. Voilà. En montant au fur et à mesure que la fréquence descend. Donc on a bien des phénomènes de tonotopie qu'on retrouve au-delà de la sélectivité envers des modulations de fréquence. Voilà. Donc on avait bien, là, dans cette première étape, des mécanismes perceptuels qui permettent à l'animal, dans des contextes variés, d'avoir une réponse adaptée. Maintenant, reconnaître l'espèce et la population, c'est bien, mais on a vu que les tourneaux, c'était aussi une espèce sociale, donc qui crée des liens avec les autres. Et comme chez l'humain, créer des liens avec les autres, ça veut dire aussi se familiariser avec différentes caractéristiques, avoir une représentation de l'autre. Et un groupe des tourneaux, un groupe social des tourneaux, en dehors de la saison de reproduction, ça s'organise en paires de femelles. Il y a des paires de femelles qui passent leur temps ensemble, et des petits groupes de mâles qui forment des communautés. Et en fait, hors saison de reproduction, les mâles et les femelles ont tendance à avoir des réseaux sociaux distincts et des répertoires de chants qui ont tendance aussi à être distincts. Et en particulier, les paires de femelles, mais aussi les petits groupes de mâles, ont tendance à se mettre à partager des chants. On a vu ces chants individuels, les chants de classe 2, ou le gazouillis, ils se mettent à converger pour avoir des formes qui les caractérisent ensemble. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends cette paire de femelles ici, eh ben, en fait, il y avait une bonne partie de son répertoire qui était mis en commun. Elles se mettent à développer des structures communes et qui vont être différentes d'une autre paire de femelles. Donc, c'est une sorte de marqueur social ou marqueur d'affinité sociale. Et si on modifie l'organisation sociale, on retire les partenaires, on en met d'autres, il y a de nouveaux liens qui se créent. Chaque fois que la situation sociale, ce sont des adultes, chaque fois que la situation sociale est modifiée, on s'aperçoit qu'il y a des nouveaux champs qui apparaissent et d'autres champs qui ne sont plus émis, dont on peut se demander s'ils sont oubliés ou pas produits. D'accord ? Mais donc, ces périodes de perturbation sociale sont celles où il y a, chez l'adulte, une dynamique aussi sur le plan vocal. Donc, on a voulu aussi, là, voir les phénomènes perceptuels au niveau central, et on est reparti sur ces notions de trois catégories fonctionnelles, qui sont ces champs spécifiques, les thèmes individuels, mais qui, du coup, en fait, peuvent aussi être partagés entre des partenaires sociaux proches, et les classes 3 qui sont aussi liées aux relations à la fois femelle-femelle, mâle-mâle et mâle-femelle. Et puis, bon, pour contrôle, on met toujours des sons purs ou des bruits blancs. Donc, toujours dans ce contexte d'électrophysiologie où l'animal est placé en contention et entend des chants, on les a confrontés à leurs propres chants, à des chants d'individus inconnus, à des chants d'individus connus et à des sons non spécifiques. Avec là aussi un système d'enregistrement systématique, et on a regardé ce qui se passait dans les deux hémisphères aussi. Et en fait, ce qui est intéressant, et là je reviens sur ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'il y a une latéralisation du traitement de l'information. C'est-à-dire que l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche ne vont pas traiter tout à fait de la même façon. On a une dominance de l'hémisphère droit chez les tourneaux, donc contrairement à d'autres espèces et à l'homme. Mais cette dominance de l'hémisphère droit ou cette latéralisation ne s'exprime que si l'animal est éveillé. Si on fait la même expérience en anesthésiant les animaux, la latéralisation n'existe plus et les types de réponses ne sont pas les mêmes. Sur les animaux anesthésiés, on s'aperçoit qu'en fait, ils vont répondre à des sons purs, à des sons spécifiques larges et plus du tout à l'information individuelle, alors qu'en état d'éveil, on a une répartition des tâches entre hémisphères et entre noyaux. Là, on a travaillé à la fois sur l'air auditif primaire et sur le HVC, dont je vous rappelle que c'est un noyau moteur, mais il a aussi une portion de neurones qui répondent aux stimuli auditifs. Si on compare les deux noyaux et les deux hémisphères, on s'aperçoit que dans le champ L, donc air auditif primaire, l'hémisphère gauche traite surtout les champs inconnus, alors que l'hémisphère droit va traiter les champs propres et les champs d'individus familiers. Si on prend le noyau moteur, on s'aperçoit que dans les neurones auditifs qu'il présente, l'hémisphère gauche traite surtout les sifflements de classe 2, donc toujours une catégorie plutôt individuelle, et dans l'autre, le gazouillis, ce champ long et complexe que je vous ai montré. Et il semblerait que l'hémisphère gauche donc soit plutôt lié à des stimuli appelant une réponse motrice, alors que l'hémisphère droit, globalement, traite plutôt l'analyse des détails et la reconnaissance individuelle. Donc ça, c'est l'air auditif primaire dont on vous a montré qu'il répondait surtout à des paramètres fins, à des paramètres acoustiques donnés. On s'est aussi intéressé aux réponses dans l'air auditif secondaire, qui là fonctionnent totalement différemment. Ce dont on s'est aperçu, toujours avec le même protocole, c'est qu'en fait, là, on n'est plus sur de la sensibilité des neurones à des paramètres acoustiques, mais une sensibilité des neurones à des catégories fonctionnelles. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en fait, ils répondent très peu à des sons purs, ils répondent moyennement aux sons universels spécifiques. Par contre, ils répondent beaucoup à tout ce qui porte l'identité individuelle. Et donc, on a beaucoup de réponses pour les champs de classe 2 et pour les champs de classe 3. C'est intéressant aussi, c'est qu'au sein des champs de classe 3, je vous ai dit, à la fin des séquences, on a des éléments qui ne sont pas de l'information individuelle. Vous voyez qu'ils n'y répondent pas, quasiment pas. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, on oublie complètement la structure acoustique. Ce noyau, les neurones de ce noyau, ne traitent pas l'information acoustique, ils traitent l'information sociale associée. Et ça, c'est quand même un autre niveau aussi d'intégration de l'information. Donc, si on résume, on s'aperçoit que le pourcentage de sites réactifs dans le NCM, donc l'air auditif secondaire, va croissant en fonction du niveau d'individualité du champ diffusé. Alors, on s'est quand même interrogé sur ce que voulaient dire ces facteurs sociaux. C'est quoi cet autre individu familier connu qui est représentant pour l'individu ? On a fait des expériences sur des femelles et tourneaux, parce qu'on a vu que le lien entre femelles était très fort. Et en fait, vous avez vu que quand il y a perturbation sociale, en fin de compte, il y a changement de champ et il y a des champs qui sont oubliés. On s'est dit, mais est-ce qu'ils sont oubliés, enfin, qu'ils sont plus produits ? Est-ce qu'ils sont oubliés ou est-ce que simplement le contexte n'est pas approprié pour les produire ? Donc, on a fait une expérience où, en fait, on a diffusé à des femelles et tourneaux des champs de femelles inconnues, des champs propres à des femelles connues, mais qui n'étaient pas particulièrement une partenaire sociale, ou des champs qui étaient partagés avec leur partenaire social un an plus tôt, donc qui ne produisaient plus et partenaires qui n'avaient pas vu depuis un an. Et en fait, on s'aperçoit que ce qui diffère, donc là, on a enregistré, on a regardé ce qui pouvait nous donner des indications. Le seul comportement qui diffère de façon claire, c'est l'attention visuelle. C'est-à-dire qu'au moment de la diffusion, l'animal, quand c'est un champ d'anciennes partenaires familières, se met à avoir des mouvements de tête partout dans l'environnement, comme s'il était en recherche visuelle du partenaire. Alors que quand c'est un champ de femelles inconnues, il y a une attention figée, plutôt tendance à diminuer les mouvements de tête, et pas d'attention particulière autour, pas de recherche active en tout cas. Donc, pour nous, c'était clair qu'il y avait dans la mémoire de l'étourneau, bien qu'il y ait un an d'intervalle, une représentation intermodale durable du partenaire social. Donc, on s'est dit, là, on va quand même tenter quelque chose. On nous a toujours dit que l'air auditif primaire, c'est unisensoriel, ça ne traite que des sons. N'empêche que déjà, à ce niveau-là, on s'aperçoit que c'est modulé par les facteurs sociaux. Donc, il y a sans doute quelque chose qui intervient. Et donc, on a refait les mêmes expériences que je vous décris depuis le début, toujours notre animal en contention, mais cette fois-ci, en plus d'entendre des sons, il avait un écran devant lui où il pouvait voir des images, des photographies, des tourneaux, familiers ou non familiers. Et en fait, ce qui se passait, on passait la photo de l'individu familier et non familier, et tout de suite derrière, mais après, on passait le son, soit de cet individu familier, enfin, on passait le son de cet individu familier quand c'était un individu familier, ou le son d'un individu non familier quand c'était une photo d'individu non familier. On n'a fait que du congruent. Et on s'aperçoit qu'en fait, près de la moitié des neurones de cette aire auditive primaire sont sensibles à la vision d'un congénère. C'est-à-dire qu'en fait, ils restent auditifs. Hein. Aucun n'a montré de réponse uniquement au stimulus visuel. Ils n'ont répondu qu'au stimulus acoustique, mais en étant modulés, donc certains sont activés par la présence de l'image, d'autres sont inhibés, d'autres ont des réponses mixtes. Voilà. Donc en fait, c'était quand même assez intéressant parce qu'on est bien loin de quelque chose qui est purement unisensoriel. Un exemple, c'est par exemple là, image familière puis son familier. On s'aperçoit quand c'est du familier qu'il y a suppression des réponses auditives, alors que quand c'est du non familier, il y a augmentation des réponses auditives. Alors, ça peut se traduire autrement avec les déprimes, vous avez vu ça tout à l'heure, donc je ne reviens pas sur cette notion, mais en fait, ça représente le taux d'augmentation de l'activité des neurones quand il y a image versus écran vide, et le taux de diminution des réponses par rapport, quand il y a image par rapport à réponse écran vide. Et on s'aperçoit donc que l'augmentation des réponses auditives se fait exclusivement quand c'est associé à une vision d'un animal non familier, alors qu'il y a diminution de l'activité auditive quand c'est un animal familier. Donc en fait, une des hypothèses, c'est que quand c'est un animal non familier, il y a une recherche active d'informations complémentaires, alors que quand c'est un animal familier, quelque part, l'information visuelle pourrait suffire. C'est une interprétation parmi d'autres. Donc, le facteur social, c'est quelque chose de crucial. On a vu que le champ est capable de porter une information qui est à la fois individuelle, sociale, populationnelle et spécifique. Et en fait, vous voyez qu'on a un système perceptuel quand même qui est bien adapté, puisqu'il y a des catégories fonctionnelles qui sont traitées en tant que telles par les systèmes perceptuels. Il y a un lien direct entre perception et production, puisqu'en fait, l'animal doit immédiatement répondre avec le champ approprié. Et puis, il y a le fait que quand même, c'est quand même une découverte que les neurones auditifs dans une aire auditive primaire soient sensibles à ces informations visuelles. Et encore plus à la familiarité des informations visuelles. Hein. Ce n'est pas juste un congénère, c'est familier ou non familier. Alors, au-delà de... Donc, on a vu qu'il y avait reconnaissance spécifique, reconnaissance des partenaires sociaux et adaptation de ces partenaires sociaux. Il y a aussi la vie de reproduction et dans ce cadre-là, émetteurs et receveurs doivent s'ajuster. On a pu montrer, par exemple, que les types de champs utilisés par les mâles différaient en fonction du moment dans la reproduction. Exemple ici, au moment de la construction du nid, on a une majorité de sifflements de classe 1, probablement liés au fait qu'ils doivent s'espacer entre mâles. Donc c'est plutôt des sifflements associés à l'espacement entre voisins. Alors qu'il y a moins de gazouillis, et en particulier dans le gazouillis de tri haut, à cette phase-là. Au moment de l'incubation, plus personne ne dit rien, parce qu'en fait, les mâles aident les femelles à s'occuper des œufs, donc les mâles deviennent silencieux. Et puis, expérimentalement, on a retiré les femelles à ces animaux, et on a regardé ce qui se passait derrière. Et en fait, on retire la femelle, donc l'animal, le mâle se retrouve célibataire à nouveau, et se met à chercher une nouvelle femelle, parce que le deuil dure quand même pas très longtemps hein, chez les tourneaux. Donc, en fait, à ce moment-là, de quoi on s'aperçoit ? C'est qu'il y a une augmentation un peu du gazouillis, qui est connu pour être un champ important pour les relations mâles-femelles, mais surtout au sein du gazouillis, des trios. Hein, vous vous souvenez, ces sons en fin de séquence qui sonnaient un peu dur à l'oreille. Hein. Et donc, ça nous a intrigués. On s'est dit, mais c'est bizarre, parce que le reste de l'année, finalement, ils en produisent plutôt moins. Qu'est-ce que ça veut dire du point de vue de la femelle ? Donc, on a refait des expériences d'électrophysiologie dans le champ L, donc dans le cortex auditif primaire, et on a regardé les réponses neuronales des femelles à différentes catégories de champs en fonction de elles étaient en période de reproduction ou elles n'étaient pas en période de reproduction. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en fait, il y a trois catégories de champs qui sont associés à des modifications de sensibilité des neurones au cours des saisons. C'est les champs de classe 2, vous vous souvenez, c'est les champs qui caractérisent les individus ou les partenaires sociaux. Les motifs individuels de classe 3 qui sont aussi partagés éventuellement entre partenaires sociaux en dehors de la période de reproduction. Donc en fait, au moment, quand on est en période hors reproduction, les neurones sont davantage sensibles à tout ce qui est stimulus social, alors que quand on est en période de reproduction, ce sont ces fameux trilles qui provoquent le plus de réponses auditives. Donc en fait, ce que ça met en évidence, c'est réellement une différence de sensibilité, alors ça c'est un exemple, sensibilité des mêmes neurones à des sons différents en fonction de l'état physiologique. Hein, donc une plasticité adulte très claire. Là c'est un exemple type dans un même site neuronal, là c'est un même tri, voilà ce qui provoque en saison de reproduction, vous voyez qu'il y a une activité importante, et hors saison de reproduction, voilà ce qui provoque. Donc, en fait, voilà, les mêmes zones neuronales sont sélectives envers des paramètres différents en fonction de l'état des animaux. Donc, c'est vraiment une plasticité adulte qui est fonctionnelle et qui est relativement originale aussi. Donc, en fait, ça veut dire que les femelles et tourneaux, elles n'entendent pas les mêmes choses à différents moments de leur vie. Hein. C'est ça aussi que ça veut dire d'un point de vue comportemental. Alors maintenant, on va peut-être finir sur l'aspect qu'a développé aussi Christine sur le volet humain, qui est la plasticité développementale, cette fois-ci, donc tout ce qui est phénomène d'apprentissage. On a vu que chez les oiseaux chanteurs, c'était quelque chose d'important. Alors les tourneaux se conforment à l'essentiel des oiseaux chanteurs. Il a besoin d'entendre un modèle pour apprendre. Et en plus, il n'aime pas apprendre les haut-parleurs. C'est-à-dire que si on élève des étourneaux en leur diffusant des chants, en général, ils n'apprennent pas beaucoup. On a vu aussi qu'ils sont capables à l'âge adulte de changer, donc que les facteurs sociaux sont primordiaux pour cet apprentissage. Et effectivement, même s'il n'y a pas d'adulte, le fait d'être avec des pairs, avec d'autres animaux de même âge, va stimuler le développement du chant, sans qu'il soit normal pour autant. Et en fait, si on compare le système perceptuel d'animaux élevés avec des adultes à ceux d'animaux élevés en groupe de jeunes, on s'aperçoit que il y a des modifications, des perturbations, mais vraiment importantes, du système perceptuel. En particulier, vous avez vu tout à l'heure la tonotopie qui existait et la structuration des réponses chez un animal adulte normal. Si on regarde la même chose chez un animal adulte, mais élevé depuis son plus jeune âge sans modèle adulte, on s'aperçoit, vous voyez, qu'il n'y a pas de structuration. Alors, il n'y a pas de tonotopie. Vous savez qu'un des dogmes, c'était la tonotopie, c'est inné et ça ne bouge pas. En fait, là, non. Quoi, hein. Clairement, il n'y a pas de tonotopie. Il y a des foyers d'activation dispersés. Donc, on n'est pas du tout sur une structuration normale de l'aire auditive primaire. Alors, pourquoi il ne fait pas ce que je veux ? Voilà. Maintenant, je vais vous passer une reconstitution un petit peu de l'activité. À gauche, c'est animal sauvage. À droite, c'est animal élevé sans adulte, et au milieu, c'est le son qui est diffusé. Donc, en fait, ce que vous allez voir, c'est l'activité des neurones pendant la diffusion de ce chant. Donc, si je prends l'animal sauvage, vous avez retrouvé la carte de tout à l'heure. Hein, vous voyez qu'il y a des foyers qui évoluent au cours du temps. Si je prends maintenant l'animal élevé sans adulte, vous voyez que c'est une sorte de feu d'artifice. Hein, ça explose dans tous les sens. Donc, il n'y a vraiment pas de structuration. Ah, bon, il me le met tout seul. Et autre aspect intéressant, c'est la sélectivité des neurones. C'est-à-dire qu'en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que ceux élevés sans modèle adulte ont des neurones dits généralistes qui répondent à n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils vont entendre une porte, un sifflement des tourneaux ou un miaulement de chat, pour eux, ça va être pareil, ils vont répondre. Donc en fait, on s'aperçoit que si on prend le pourcentage de neurones dits non sélectifs, généralistes, on en a en gros 60% chez les animaux isolés, alors que normalement, on est sur une quantité très faible chez les animaux sauvages. Normalement, l'aire auditive primaire est très spécialisée. Et ce qui est intéressant, c'est que plus on est sur de la spécialisation, et plus l'aire auditive est restreinte. Contrairement, des fois, on dit les gros cerveaux, c'est parce qu'on est plus intelligent. Alors, j'aime bien, des fois, montrer cet exemple. C'est qu'en fait, l'aire auditive est plus large. Il y a davantage de sites auditifs chez ceux qui ont une privation sensorielle et sociale que chez ceux qui sont élevés normalement. Donc ça aussi, c'est intéressant, je trouve. Alors, ce qui nous a intrigué, c'est quand même le rôle des facteurs sociaux. Parce que là, on était sur la privation qui était à la fois sensorielle et sociale. On s'est dit, mais quid de chaque aspect ? Donc, en fait, on a élevé des étourneaux dans trois conditions différentes. Soit des jeunes placés avec un modèle adulte, soit tout seul dans une chambre sourde, chacun pour soi, soit en paire de jeunes dans une chambre sourde. Et il y avait des systèmes de haut-parleurs qui font que ceux qui étaient dans les chambres sourdes ici entendaient les interactions qu'il y avait dans la volière à côté. Et ceux-là s'entendaient tous. Donc là, vous voyez, c'est des petits étourneaux qu'on élève à la main. C'est un peu fastidieux, mais ça marche. Voilà. Et en fait, on a eu des résultats assez surprenants quand même. Alors, il y en a un qui est particulièrement intéressant, c'est que les oiseaux qui étaient élevés en paires de jeunes n'ont strictement rien appris des haut-parleurs. Il n'y a pas une bribe de chant d'adulte. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont improvisé et chaque paire a son propre répertoire. Donc, chaque paire de petits jeunes a développé un répertoire totalement anormal, mais qui lui est propre. Ceux qui, quelque part, ont copié le plus, c'est les animaux isolés, en particulier les mâles, qui ont copié à peu près 60% de ce qui était émis par les adultes. Et ceux qui étaient en volière avec les adultes, ben, en fin de compte, ils n'ont pas copié tant que ça, ils se sont beaucoup copiés entre eux, mais vous voyez qu'ils ont copié entre 2 et 4% du chant des adultes. Donc, aspect quand même assez intriguant, sur lequel je vais revenir. Donc, en fait, ce que ça montre quand même, c'est que l'expérience sociale en tant que telle module totalement l'apprentissage qui a lieu. Hein, et que finalement, quand ils sont en paire de jeunes, ils négligent totalement ce qui peut arriver de l'extérieur. Donc le contexte social est primordial ou prime sur la formation sensorielle. Alors pour vous donner une idée, je vais vous passer les chants des différentes catégories. Là, c'est ceux qui sont élevés avec le mâle. Percevoir la structure globale est assez bonne, mais vous entendez que les sons, c'est pas tout à fait ça quand même, hein. Il y a des petites modifications. Maintenant, si on prend ceux qui ont été élevés isolés, si vous comparez les deux, en fait, là, la structure est plutôt bonne, mais les notes sont pas terribles. Et là, les notes sont plutôt bonnes, mais la structure est pas terrible. Donc, vous voyez que le rôle des adultes ou l'influence des adultes n'est pas la même dans les deux cas. Et les plus différents, ce sont les animaux élevés en paire. Vous l'infligez plus longtemps, vous entendez, c'est vraiment très différent. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que si on repart cette fois-ci dans le cerveau pour essayer de voir ce qu'ils ont développé en termes de perception, on s'aperçoit que finalement, il y a un rôle de l'expérience sociale, certain, mais que les déficits sont quand même marqués dans tous les cas. Si on prend ici une sorte de gradient, là, c'est les animaux élevés sans tuteur que je vous ai montré tout à l'heure, hein. Là, c'est des animaux isolés, les animaux élevés en isolement, mais qui entendaient le chant d'adulte. Donc là, c'est privation sensorielle et sociale. Là, c'est privation sociale. Là, c'est on est en paire de jeunes. Là, ce sont des jeunes placés avec un adulte. Et voilà, en gros, ce qu'on trouve chez les sauvages. Donc ça, c'est la proportion de neurones non spécialisés. Et vous voyez qu'en gros, qu'on soit privé sensoriellement ou privé socialement, ça revient au même. Hein ? C'est-à-dire que ne pas. Là, ils ont entendu du chant, ça c'est sûr, il y avait du chant qui arrivait dans leur chambre sourde, mais en fin de compte, leur aire auditive ne s'est pas mieux développée que celle d'animaux qui n'avaient pas entendu de chant. Et un phénomène intriguant, c'est le fait que ceux qui étaient placés avec les adultes aient finalement aussi des perturbations du système auditif. Donc ça, c'était quand même quelque chose de très intriguant pour nous. On ne s'attendait pas du tout à ce résultat. Et donc, on s'est posé la question de l'attention portée à l'adulte. Parce que quand on regardait les relations sociales, on s'est aperçu que ces petits jeunes, en fait, qui étaient plusieurs avec un seul adulte, ne créaient pas de lien avec l'adulte. Ils formaient des sortes de bandes de jeunes. Voilà. Et ils se mettaient à s'imiter l'un l'autre et à négliger totalement l'adulte. Donc on s'est dit, mais est-ce que le facteur attention envers l'adulte n'est pas un facteur clé? Et on a regardé de plus près, dans une autre expérience, la différence qui existait, là encore, en termes de sélectivité neuronale, suivant que les individus avaient ou non créé un lien avec l'adulte. Et on s'aperçoit qu'effectivement, ce qui est primordial, ce n'est pas la simple présence, c'est le fait de créer un lien réel, qui se traduit chez les tourneaux par de la proximité spatiale, hein, chez d'autres espèces, c'est autrement. Et en fin de compte, on s'aperçoit que ceux qui ne créent pas de lien avec l'adulte ont exactement les mêmes déficits que s'ils n'étaient pas en présence d'un adulte. Être dans la pièce à côté a le même impact qu'être dans la même pièce, mais ne pas s'intéresser à l'autre. Alors qu'en fait, ceux qui créent un lien avaient une sélectivité neuronale beaucoup plus normale, ce qui veut dire donc qu'un lien social perturbé peut, un simple lien social perturbé peut amener à mal entendre. Alors on s'est dit, mais pourquoi dans la nature, quand même, ils chantent normalement, les étourneaux, donc il doit bien y avoir quelque chose qui explique ce phénomène. Donc on a travaillé après, on a fait une série d'expériences sur le ratio adulte-jeune, en se disant, mais il y a un adulte avec plusieurs jeunes, peut-être que c'est ça. Et donc on a fait des groupes avec un adulte, un jeune, un adulte, deux adultes, un jeune, ou deux adultes, sept jeunes. Et si on regarde les conséquences en termes de production cette fois-ci, on s'aperçoit que les seuls qui apprennent de façon conséquente le chant d'adulte, c'est ceux qui sont en relation dyadique, un adulte, un jeune. C'est moins bon quand on met deux adultes, un jeune, et alors ils apprennent rien du tout quand ils sont en fait trop jeunes. Voilà. Alors, on a ça, je le dis pour la petite histoire, on a ça aussi sur les comportements sociaux autres, c'est-à-dire que dans un ratio déséquilibré envers les jeunes, on a un taux d'agression qui est beaucoup plus élevé que dans un ratio dans l'autre sens. Donc, c'est assez intéressant. Donc, le ratio adulte-jeune, il est réellement déterminant pour l'apprentissage et, visiblement, il est surtout dans une relation dyadique où l'attention mutuelle a des chances d'être la plus forte. Alors, on a regardé aussi ce que ça pouvait avoir comme conséquence sur d'autres types de représentations. Comme on avait vu quand même que la vision modulait les réponses auditives, on s'est dit, mais finalement, est-ce que la représentation, y compris visuelle, de l'autre, n'est pas altérée aussi? Donc, dans une expérience plus récente qu'on vient de faire, on a entraîné des animaux, enfin, c'est du conditionnement, l'animal peut, est en isolement dans une chambre sourde, et peut ou non faire apparaître l'image d'un congénère en plaçant son bec dans un capteur. Et il avait le choix, là, dans l'expérience d'aujourd'hui, entre une photo de congénère ou une photo de paysage, ou rien. Et en fait, on s'aperçoit que si on teste des animaux sauvages, évidemment, comme on peut s'y attendre, ils vont être très motivés pour faire apparaître des photos de congénères. Ils sont tout seuls dans leur cage, avoir un congénère même en photo, c'est mieux que pas de congénère. Mais par contre, si on prend des jeunes élevés sans adultes, on s'aperçoit qu'en fin de compte, ils font apparaître n'importe quelle image de façon complètement indépendante, c'est-à-dire qu'ils sont aussi motivés par un paysage que par un congénère. Ce qui semble indiquer qu'ils ont une représentation de ce qu'est un partenaire social qui est profondément altéré sur plein de modalités. Et du coup, on a testé ces mêmes animaux avec le protocole que je vous mentionnais tout à l'heure, donc image de congénère familier, non familier, et on s'aperçoit que, donc vous vous souvenez des résultats de tout à l'heure, animal non familier, on augmente l'activité auditive, animal familier, on la diminue. Et ben, chez les jeunes élevés sans adultes, ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a aucune modulation par la familiarité. Et il y a une modulation de l'activité auditive qui est plus restrictive par rapport à celle des adultes par l'image. Donc, en fait, visiblement, il n'y a pas de discrimination dans ce manque d'expérience avec adultes de ce qu'est un animal familier. Il n'y a pas de création de vrais liens sociaux ou de mémoire de liens sociaux, y compris sur le plan visuel. Donc, voilà, on avait un peu une réponse à notre question, qui est qu'effectivement, les liens sociaux contribuent à construire le cerveau et surtout son aptitude à traiter la communication et à y répondre. Et en fin de compte, on a tendance à penser maintenant que c'est peut-être l'orientation. En fait, le lien social, c'est aussi une attention sélective. C'est ce qu'on a vu aussi avec l'expérience de Kuhl tout à l'heure, hein, où l'interaction directe n'avait pas du tout le même impact que l'audiovisuel. Et l'interaction directe, c'est quoi? C'est mettre son attention sur l'autre aussi. Donc, notre hypothèse forte, c'est que c'est l'attention qui sert de médiateur à ces modifications, à cette plasticité, qu'elle crée finalement une spécialisation neuronale envers des sons qui, éventuellement, dans certains cas, peuvent être inhabituels, et que ce champ perceptif accru peut influer sur la production. Alors, juste pour vous montrer, un étourneau élevé par des humains, qui a créé un lien particulier avec un humain. Et vous allez entendre ce qu'il dit. Alors, c'est de l'anglais.
It's a pretty boy.
It's a pretty boy.
Give me a kiss.
Donc la personne dit, donne-moi un baiser.
Give me a kiss.
Donc l'étourneau a appris non seulement le son, mais le contexte social. C'est-à-dire qu'il est capable, comme l'autre ne lui dit plus « give me a kiss », ben, il le fait et il se répond à lui-même. Hein? Donc ça, c'est assez intéressant. Et en fait, ce n'est pas un phénomène unique hein, chez l'étourneau. Je vous fais entendre, parce que j'aime bien finir là-dessus. C'est, en fait, cette relation, ce qu'on voit au niveau intra-spécifique en termes de relations sociales, c'est quelque chose qu'on voit finalement dans notre quotidien, plus ou moins, dans les cas d'apprentissage exceptionnel de parole humaine. Hein? Alors, ça, vous êtes peut-être pas familier. Donc ça, il est capable quand même de reproduire le... Alors, les gens qui connaissent le soigneur, parce qu'en fait, il a créé un lien avec son soigneur et il se met à imiter son soigneur, disent qu'on reconnaît y compris le timbre de voix. Et puis, vous avez tous sans doute entendu parler...
Meet Alex, an African grey parrot. This is not your average bird. He's learning to count.
How many blue blocks?
Four.
Four is right. Good boy.
Alex is actually thinking.
Tell me what's different.
Color.
Yeah, color. What color bigger?
Green.
Green, you're right.
Rock.
He even knows how to ask for what he wants.
Some water.
Okay. Là, il est en train de réclamer une caresse.
Shower.
Yeah.
Ou une douche. Voilà. Alors, c'est intéressant parce que justement, là où Irène Pepperberg a réussi, alors que d'autres avaient essayé avant et n'avaient pas réussi, il faut bien savoir que c'est quand même très particulier, c'est qu'elle a joué justement sur la modulation de l'attention. Elle a développé ce qu'on appelle un protocole de modèle rival, où en fait, l'animal est en rivalité avec un autre humain sur l'attention portée par la personne. Et en fin de compte, quand l'entraînement se fait avec l'autre personne, on pose des questions, la personne répond, et l'animal, parce qu'il est en recherche de cette attention humaine, d'une personne familière, va se mettre à mettre encore plus d'attention et à se mettre à imiter. Donc vraiment, je pense que l'attention, c'est quelque chose qui mérite plus de considération qu'on a fait jusqu'à présent. Et donc, je pense que l'avenir, il est dans aussi mettre les nouvelles techniques, parce qu'on est de plus en plus technique et de plus en plus pointu. Mais dans cette recherche de technicité, on perd quelquefois l'aspect fonctionnel qui est essentiel à la compréhension des mécanismes. Et je vous remercie.